Alors nos rangs sont décimés par le Covid. Il y a plusieurs de l'Église dont je sais qui sont ralentis par le Covid, en tout cas. Avant la prédication à proprement parler, deux commentaires préalables, ou trois. Je voudrais saluer mon ami Bernard qui est étudiant avec moi. Là. Désolé Bernard de te mettre en avant, c'était pas prévu comme ça, mais voilà, bienvenue, qui est étudiant à Lyon avec moi. Donc, et puis deux commentaires préalables, en lien d'ailleurs avec la semaine de l'unité des chrétiens. Donc ce dimanche aujourd'hui, c'est un dimanche de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette semaine, elle a été instituée au début du XXe siècle par un pasteur américain à l'origine, qui se convertira d'ailleurs par la suite au catholicisme. Elle a eu lieu pour la première fois du 18 au 25 janvier 1908. Et vous le savez probablement, mais il s'agit en fait, si je peux dire en fait, de la reprise d'une initiative qui avait été faite en milieu évangélique. Et donc il y a le pendant, voilà, j'y arrive. En 1846, c'était la création de l'Alliance évangélique mondiale à Londres, sous l'initiative de 52 dénominations évangéliques. Et cette alliance avait alors créé une semaine de prière. Donc aujourd'hui, il existe deux semaines distinctes qui ont lieu ordinairement à une semaine de distance. En France, donc, vous avez le livret de la semaine de prière de l'Alliance évangélique, du CNEF, Conseil national des évangéliques français, ou quelque chose comme ça, et puis donc de la semaine de l'unité. Donc, en France, la semaine de prière de l'Alliance évangélique européenne, qui rassemble ordinairement des chrétiens évangéliques principalement. Et puis la semaine suivante, c'est la semaine où nous sommes en fait, qui est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et qui à laquelle tous les chrétiens sont invités, sont conviés. Et nous sommes donc à la fin de cette seconde semaine. Alors, il se trouve, pour une raison que j'ignore, que cette année, le culte du CNEF, donc qui clôt la première semaine, a lieu aujourd'hui. En même temps, j'imagine, c'est pour des raisons de salle, donc c'est à Lyon, j'ai oublié, la Bourse du Travail. Voilà. Pour une fois, ça colle, si je puis dire. Donc c'était un premier mot. Et puis j'en profite aussi, parce que je crois que j'ai jamais fait, enfin bref, voilà. J'en profite pour prolonger par un petit état des lieux relationnels, alors tout en précisant que c'est très partiel, que je ne vois les choses que d'un petit bout de la lorgnette, et qu'en plus je ne sais pas bien où faire porter l'accent pour dire les choses avec justesse, d'autant plus qu'en fonction des lieux, les relations sont différentes, donc... Alors tout d'abord, je ne sais pas comment les uns et les autres parmi nous percevons ces initiatives. Je suis sûr que certains sont enchantés, et je suis sûr que d'autres sont au moins dans l'inquiétude. Je m'en tiens à dire que je suis souvent frappé déjà du peu de familiarité que les évangéliques ont entre eux, sans parler des autres communautés. Je pourrais illustrer, mais je veux pas, ça prendrait trop de temps. Alors, je dirais, si déjà entre évangéliques, c'est pas forcément gagné d'avance, quand on parle de communautés chrétiennes qui semblent si différentes, j'ai envie de dire a fortiori. Je m'en tiens aux relations catholiques-évangéliques, pour illustrer. Alors ça bouge aussi, hein, mais ça a bougé. Beaucoup d'évangéliques se demandent si les catholiques sont chrétiens. Et un certain nombre de catholiques, au moins, se demandent si les évangéliques ne sont pas des sectes. Je m'en tiens à dire qu'avec de telles craintes, de telles méfiances, de part et d'autre, et du coup, c'est difficile de dialoguer. Quand on se méfie de quelqu'un, déjà indépendamment du champ religieux, hein, quand on se méfie déjà de son voisin qui est à côté de nous, on contribue probablement à compliquer la relation avec lui. C'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est une question que je me pose, c'est où sont les lieux de dialogue ? Alors, je ne connais pas tout, et en même temps je n'en connais pas beaucoup, et c'est vrai qu'il mobilise parfois un nombre limité de personnes, hein. Je pense au niveau un petit peu inter-église nationale, hein, je suis dans cette idée-là. Ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est qu'au dans un certain nombre de lieux de dialogue, les évangéliques, puisque je suis évangélique, les évangéliques ne sont pas là. Alors, pour plusieurs raisons, soit qu'ils n'aient pas été invités, alors parfois on ne sait pas qu'ils existent, ou on ne les prend pas très au sérieux, et je rajoute parfois à juste titre, soit qu'ils n'aient pas voulu venir, et on les a invités, mais ils n'ont pas voulu venir. Ce qui a sans doute des avantages, mais qui ne contribue pas à ce qu'on les prenne au sérieux non plus. En même temps, il y a eu sans doute un certain nombre de rapprochements, enfin de lieux d'échange, et puis on essaie de produire aussi des textes parfois, depuis quelques décennies. En témoigne tout récemment, c'était en novembre, la publication, c'est le même texte, mais ce sont deux maisons d'édition différentes. Donc là, il s'agit d'un dialogue entre catholiques et la Fédération Baptiste, donc qui est une des familles évangéliques en France. Voilà, donc tout récent, sur le mariage, sur la guerre et la paix. Cela dit, je voudrais dire que les clivages demeurent, et parfois ils demeurent même... Ah pardon, je suis allé un peu vite, donc je peux y verser, c'est pareil. Ils demeurent et parfois très forts, en témoigne donc, j'y arrive, un discours du 16 novembre 2020 du président d'une association donc de théologiens évangéliques. Alors je fais référence intentionnellement à une personne qui a une certaine respectabilité, a priori, une certaine notoriété, et qui, a priori, est bien consciente des enjeux. Et dans son discours, il identifiait quatre menaces, quatre tentations pour les évangéliques. La première, dit-il, je trouve intéressante, c'est le fondamentalisme. Donc, je ne sais pas comment résumer, mais ce serait une posture de lecture étroitement littérale et raide de la Bible. Ce qui alors il est d'accord avec le corps, l'essentiel des points de foi, mais il constate que ça aboutit à une crispation aussi sur des points secondaires. Tout est mis à peu près au même niveau, et du coup il y a une crispation sur des points secondaires qui écarte aussi ces personnes de la sphère culturelle. Je trouve je vous donnerai pas mon avis, hein, j'essaie de faire un descriptif, et puis chacun, voilà, c'est pas mon propos ce matin. Mais je trouve la prise de position intéressante quand on sait que les évangéliques ont été très souvent identifiés au fondamentalisme, comme si c'était équivalent. Donc lui, il s'en écarte. Menace, tentation. Deuxième menace, l'athéisme. Bon, là, ça pose pas trop de problèmes. Troisième menace, dit-il, le libéralisme. Alors je vais illustrer dans deux minutes, mais grosso modo, ce serait une posture qui, par exemple, devant des textes de miracles, va dire, bon, de toute façon, on sait bien que les miracles, ça n'existe pas. Donc voilà, je caricature un peu. Et là, c'est souvent avec le protestantisme traditionnel que les évangéliques se trouvent en tension. Et quatrième menace, le catholicisme romain. Et c'est pour ça que je parlais de clivage aujourd'hui, de continuité de clivage. Donc ma question, c'est pas, j'en fais simplement part, c'est pas pour moi de vous dire s'il faut être d'accord avec lui ou pas d'accord. Ce qui me semble intéressant dans son propos, en tout cas, c'est qu'il a le courage de mettre les pieds dans le plat et de ne pas céder à ce qu'on vit parfois, un espèce de politiquement écuméniquement correct. Mais évidemment, on peut mesurer en écoutant son propos que le dialogue, si tant est qu'on est prêt à l'engager, risque d'être compliqué avant même de commencer. J'en remets une couche, si je peux employer ce langage, et puis après on en vient au texte biblique. Assez communément, pratiquement, localement, on organise des célébrations communes. Et en fonction des lieux, en fonction des personnes, on sent que parfois ça va de soi, parce qu'on a confiance les uns dans les autres, et ça facilite les choses. Et parfois, on sent que ça va pas de soi. Et je voudrais juste l'illustrer en disant que tout le monde, par exemple, pourra être d'accord pour reprendre une confession de foi commune, ancienne en l'occurrence, avant qu'il y ait des catholiques, des protestants, des évangéliques et puis des orthodoxes. Donc, et notamment, le symbole de Nicée, qui date du IVe siècle, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », etc. Mais, certains diront, est-ce que ça a vraiment même du sens de tenter de prendre ce texte, quand en fait un certain nombre de ceux qui le reprennent aujourd'hui préféreraient dire, la première phrase va changer, « Je ne crois pas en Dieu Tout-Puissant ». C'est juste impensable. Dieu ne peut pas être Tout-Puissant. Donc ça illustre... On pourrait parler de libéralisme à ce propos. Je reviens à la diapo précédente. Donc le vocabulaire, en fait, convient à tous. Alors j'espère que ça va être visible. Il y a des mots qui devraient être soulignés, là. Je ne sais pas si on les voit bien. Ah, pardon, ils étaient bons. Bon, voilà, merci, autant pour moi. Donc Dieu le Père, Jésus-Christ, le salut, le Saint-Esprit, la Vierge Marie, l'Église... L'Église catholique, il faut comprendre ici que le mot est à comprendre au sens universel, l'Église universelle, c'était le sens du mot à l'époque, le baptême. Donc tout le monde peut à peu près reprendre ces formules. Mais le problème, c'est que les personnes qui les reprennent ne mettent pas les mêmes choses derrière. Exemple, qu'est-ce que le salut? Ça va être le seul mot qui est souligné au milieu. Alors je m'excuserai après. Pour tout ce que je veux dire. Côté catholique, plusieurs ou beaucoup, je me rends pas compte, je suis pas catholique, donc plusieurs y voient un cheminement qui va être étroitement associé au sacrement et à l'intercession de Marie et des saints. Côté catholique. Caricature peut-être, mais j'y reviens. Côté libéral, un libéral pourra dire facilement que le salut, c'est un effort humain. C'est l'effort qu'on s'engage pour s'améliorer soi-même et pour améliorer la société. C'est ça le salut. Et un évangélique, ou beaucoup d'évangéliques, la plupart, penseront que c'est un don exclusivement rattaché à l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, j'ai peut-être caricaturé les choses, mais tant mieux, enfin tant mieux, non, pas tant mieux, je suis pas content d'avoir caricaturé, mais ça, si je l'ai fait, il fallait que je sois bref, mais ça illustre exactement ce que je veux dire. À savoir que la relation, le dialogue, c'est pas gagné, parce qu'on a des malentendus, on a des caricatures des autres. Donc nous avons du mal avec les autres, et ils ont du mal avec nous. Alors est-ce que c'est attristant? Je ne sais pas. Je me contenterai de dire juste, avant d'arriver au texte biblique, que c'est pas, peut-être pas très étonnant non plus, parce que c'est déjà vrai pour les relations entre nous. Dans la même église. Et puis même, quittons le champ religieux, pensez à toutes ces personnes de votre famille que vous supportez juste ou à peine parce qu'elles sont de la même famille. Mais bon, elles supportent à peine. Alors entre églises. Alors, est-ce que c'est bien pertinent? Est-ce que c'est d'entreprendre un tel mouvement de dialogue, d'engager de l'énergie pour ça? Comme je vous ai dit, on pourra en discuter, pas maintenant, mais je laisserai en tout cas chacun y répondre. Mais du coup, ça me rapproche du texte, et cette question, est-ce que c'est pertinent d'engager tant d'énergie que pour ceux qui en engagent, hein? Mais je trouve dans le texte qui nous est proposé ce matin, justement, dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens, je trouve une question un peu analogue qui s'est posée. Et je vais lire ce texte dans la dernière édition de la Bible en français courant, que j'ai projetée et qui est parue il y a 2 ans, je crois. C'était juste avant Covid. Et puis je pose la petite étoile que Bernard m'a donnée tout à l'heure. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? » car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors, Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent emplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour entrer dans leur pays. Et vous le savez, l'histoire continue en racontant qu'Hérode, du coup, est un peu en colère et cherche à éliminer, c'est un euphémisme, oui, il est très en colère, et il cherche à éliminer tous les enfants qui sont nés dans la région. Mais revenons à ces voyageurs. Qui sont-ils? Eh bien, on n'en sait quasiment rien. Ils ne sont probablement ni trois ni rois, enfin ils peuvent être trois, mais voilà. Ils sont peut-être même ce que nous appellerions aujourd'hui des astrologues, ce qui peut-être pourrait nous déranger un peu. Et en même temps, leur investissement peut nous surprendre. Les voyages à leur époque, plus qu'à la nôtre, ne vont pas de soi. Ce sont des entreprises risquées, même si les Romains ont sécuriser les routes, mais il y a quand même l'histoire du bon samaritain qui se fait agresser, donc ça veut dire que c'était un événement qui n'était pas forcément si rare. Entreprise risquée, l'avion n'existait pas, le train n'existe pas, on ne consulte pas les horaires sur internet pour pouvoir se mettre en route, on ne met pas le GPS, ça ne se passe pas comme ça, il n'y a pas de voiture, les routes ne sont pas bitumées, les voyageurs peuvent se faire agresser. Qu'est-ce qui conduit ces gens à se mettre en voyage? On ne sait pas, Matthieu ne nous le dit pas en détail. Ils suivent une étoile. Ils savent qu'elle est associée au roi des Juifs. Comment est-ce qu'ils savent ça? C'est pas dit. Qu'est-ce qui fait engager à ces gens tant d'énergie? Qu'est-ce qui les fait entreprendre ce qui semble un si long trajet dans des conditions qui nous feraient probablement hésiter? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qui les fait se déplacer avec les mains pleines? Qui les fait amener leur trésor? C'est comme si vous vidiez le compte en banque et puis que vous commenciez le voyage. Petite parenthèse humoristique, enfin, vous rirez ou non d'ailleurs. Qu'est-ce que les parents de Jésus ont fait de tout ça? J'en sais rien. Ça, c'est pas dit. Parenthèse. Qu'est-ce qui les amène à faire ce voyage avec tous ces biens? Qu'est-ce qui les pousse à cela? Qu'est-ce qui les pousse à laisser ça au pied d'un enfant? Que savent-ils de Jésus? On ne sait pas, et on en sait même tellement peu, si je puis dire, que les traductions font ici des choix qui sont loin d'être identiques et qui reflètent le fait qu'on en sait très peu. J'ai lu tout à l'heure la dernière révision de la Bible en français courant, mais elle avait été traduite avant, mais on a révisé la traduction. Mais si on prend une édition précédente, donc la même traduction, mais à un autre moment de l'histoire, on relève quelque chose d'intéressant, c'est que ce n'est pas le mot « se prosterner » à gauche qui est... Oui, donc ça c'est la dernière traduction. Avant, c'était « l'adorer ». Rien de moins. Rien de moins que le fossé entre le Créateur, c'est lui qu'on adore. Et une créature devant qui on peut se prosterner. On se prosterne devant un roi, devant un notable à l'époque. Donc cet enfant, est-ce qu'ils l'ont adoré comme on adore Dieu? Ou bien est-ce qu'ils se sont prosternés comme on se prosterne devant des personnages importants? Peut-être, alors c'est, en grec c'est le même mot, hein, c'est juste un mot qui a un champ sémantique, enfin voilà, qui peut être traduit des deux façons. De façon intense et de façon plus, voilà, plus cadrée. Peut-être là aussi on met pas derrière les mêmes mots les mêmes choses, j'en sais rien. Mais c'est deux possibilités en tout cas. Et c'est le contexte qui permet habituellement de trancher. Sauf que là, le contexte, pour le coup, et pour une fois, parce que je dis ça parce que plusieurs me disent habituellement, mais toi tu nous dis les choses et puis après tu nous laisses nous débrouiller. On ne sait pas si tu as un point de vue, tu dis ouais, bon, ni l'un ni l'autre. Pour le coup, j'aurais tendance à privilégier celle-ci, non pas parce que c'est la plus récente, mais parce qu'en contexte, ils nous disent qu'ils viennent voir un roi, et devant un roi, on se prosterne. Et il me semble que c'est suffisant. Voilà. Mais maintenant, d'autres ont fait d'autres choix, et ça peut se respecter tout à fait. Voilà, je respecte tout à fait. Donc, on en sait peu de ces personnes. Ces personnes, leur déplacement les expose, mais on pourra être encore plus étonné devant les conséquences de ce déplacement. Parce qu'il a pour conséquence le massacre des innocents, comme on dit. Hérode fait tuer des enfants qui sont nés dans la région. Et parmi les énigmes qu'on peut percevoir devant ce texte, on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi Dieu, qui semble bien, pour le coup, là, du côté de la toute-puissance, pour reprendre le symbole de Nicée, il y a une étoile qui bouge, quoi, qui les guide. On dit pas dans le texte que c'est Dieu qui l'a mis, qui fait déplacer l'étoile, mais voilà, on s'en doute. Pourquoi Dieu prévient-il les mages de ne pas repasser par Jérusalem? Et pourquoi n'a-t-il pas protégé les innocents, les enfants qui vont mourir? Et puis pourquoi cette histoire nous est racontée? Quelle importance de ce récit dans l'Évangile? Parce qu'à la fin du récit, c'est le seul moment où on voit ces personnages. Ils disparaissent, on n'entend plus parler d'eux. Et apparemment, ils font juste le voyage pour voir l'enfant. Et ils font demi-tour et ils quittent la scène. Et Matthieu ne nous dit pas, mais voilà pourquoi je vous raconte ça. Et je me suis demandé si j'avais été eux, si je puis dire. Je sais pas si j'ai... Mais est-ce que ce voyage en valait la peine finalement? Qu'est-ce que... Voilà, ils font le voyage, ils déposent et puis ils s'en vont. Qu'est-ce qu'ils en retirent? Qu'est-ce qu'ils gagnent dans cette affaire? Je ne reviendrai pas à la question est-ce que l'écuménisme vaut qu'on s'y investisse, vaut qu'on se déplace, c'est pas ma préoccupation ce matin. Ou à la question même qu'est-ce qu'il faut connaître de Jésus pour aller à sa rencontre? C'est bien celle que le texte nous pose. Ni même à la question « Est-ce qu'on peut être astrologue et trouver le chemin du Christ ?» Ce que je crois qu'en tout cas ce texte illustre, c'est que nos engagements, ou nos non-engagements, nos actes ont des conséquences, et parfois des conséquences qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas mesurer. Et ici, il y a plusieurs conséquences pour ces hommes. Il y a au moins, en tout cas, j'ai dit qu'est-ce qu'ils en tirent, j'en sais rien. Le texte nous dit au verset 10, il nous parle de la joie de ces hommes. L'autre conséquence, c'est que ce texte, quand même, leur déplacement, le récit de leur déplacement, il a traversé l'histoire jusqu'à nous, aujourd'hui. Et ce texte est commenté aujourd'hui, et comme il l'a été tout au fil de l'histoire. Autre conséquence. Et puis, il y a aussi comme conséquence le drame associé au massacre. Pour ces savants, je ne sais pas ce qu'ils avaient compris, je ne sais pas ce qu'ils imaginaient, je ne sais pas ce qu'ils ont tiré de leur voyage, mais notre avantage par rapport à eux, nous qui avons l'ensemble de l'Évangile, c'est que Nous savons, en lisant la suite, que celui pour lequel ils ont entrepris tout ça était bel et bien un personnage hors du commun. Le roi des Juifs, oui, et bien plus que ça, c'est déjà dit au chapitre précédent, mais il ne l'avait pas lu, Dieu avec nous. Et le livre de l'Apocalypse nous le présentera même sous les traits d'une étoile, à la fin du chapitre 21 ou 22, je crois, l'étoile brillante du matin. Je ne sais pas si je vous le dis ou non, mais comme j'ai commencé, je vais vous le dire. Mais c'est très curieux, d'ailleurs, cette expression, l'étoile brillante du matin, qui est appliquée à Jésus. Dans la traduction latine, l'étoile brillante, c'est Lucifer. Donc, qui a donné le nom à quelqu'un que nous ne recommandons pas, si je peux employer ce langage. Donc, ils suivent une étoile pour aboutir à quelqu'un qui considère comme le roi des Juifs. Nous savons qu'il est Dieu avec nous et qu'il est lui-même présenté sous les traits d'une étoile. Platon nous dit la chose suivante, nous dit que l'homme ressemble à un arbre dont les racines sont dans le ciel. Un être qui est habité par une quête de sens qui nous engage parfois, qui nous fait nous engager dans des déplacements étonnants, dans des cheminements étonnants. Et je crois que ça vaut en effet de tout homme. Qui que nous soyons, que nous ayons un arrière-plan complètement extérieur à la foi chrétienne, ou bien que nous, quelle que soit la famille du christianisme dans laquelle nous nous trouvons, j'ai envie de dire, entendons l'Évangile. À savoir un message qui nous rapporte à quelqu'un qui est unique. Et quelqu'un qui vaut le déplacement. Et s'il y a bien quelqu'un qui vaut le déplacement, c'est lui. En tout cas, l'évangile de Matthieu nous le donne à entendre. Que nous soyons complètement déboussolés dans notre existence, ou que nous soyons assez bien, nous avons ces récits d'évangile. On n'a peut-être pas une étoile à suivre, physiquement, mais nous avons ces récits d'évangile comme boussole qui nous orientent vers Jésus. Alors que ce que nous entendons de l'Évangile nous stimule chacun ce matin à entreprendre, à continuer la route, à persévérer dans les difficultés, dans la prière que ce Dieu qui conduisait l'étoile, eh bien, conduise aussi nos pas. Même si nous avons du recul sur ce qui se passe pour les mages, parce qu'on a la suite, et nous manquons de recul sur notre histoire à nous, même si notre perspective à nous, elle est peut-être très limitée, même si nous croiserons bien des déconvenus dans notre route, et même si nous traversons ou si nous occasionnons même des drames autour de notre cheminement, mais des choses qui nous dépassent. Ce qui nous est décrit ici, et dans toute la suite, je crois, nous appelle à la confiance, à nous mettre en marche, à continuer à être en marche avec confiance, avec ce pari de la confiance, ce pari de la foi. L'Évangile se termine par ces mots. Je suis avec vous, c'est Jésus qui parle. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lui, c'est quelqu'un qui vaut le déplacement, qui en vaut la peine, qui nous porte, mes frères et sœurs, chacun.